quel sujet ?
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?
Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel Quentin.
Et donc peut-être dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte, regardez-moi la tête que ça a. On dirait une trifilerie de pétrole.
Mais c'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez ?
Ben, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Épisode 2, le centre Pompidou, machin machine.
Oh là là, le chantier ne me parlait pas. Ils commençaient à 4h du matin, et à mener tous les tuyaux. Il y avait la place, enfin, en face de chez nous, on démolit tous les immeubles. Il y avait tout un chantier, quoi. El chantier de Beaubourg de fer y, enfin, tout ce qu'il y avait pour el chantier, quoi. Mais c'était un chantier terrible, terrible, terrible. Y duré combien de mois? Ouf, beaucoup de mois. Des années.
Et comment les gens du quartier ont réagi?
Oh, mal. Mal, mal. O sea, son réagi mal. Et enfin, qu'elle est finie, tout le monde est parti.
Et vous avez pensé quoi de l'architecture?
Ouf. Que les moches, quoi. On disait que c'était une usine de pétrole.
Une usine de pétrole?
Une usine de refiner le pétrole. On disait al debout. Parce que bon, c'est tout de tuyaux qui correspondent à quoi?
Et votre loge, elle donne sur le centre?
Sur le centre.
Mais vous avez une des plus belles vues de Paris?
La plus belle vue de Paris, moi? On parle de bruit, oui. Pas du tout, pas du tout. Il y en a tout, il y en a tout. La musique, voilà tout. Les fanfares, tout ce que vous voulez.
Merci beaucoup, madame.
J'en prie.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Alors, on est arrivé. Je suis arrivée au cinquième étage, chez vous, Julie Desprairies. Et ce sont deux fenêtres d'un immeuble très étroit qui donne en biais sur le centre. On voit vraiment cette peau, hein, en plus, à l'avant de la façade.
Oui, cette espèce d'exosquelette, quoi, de squelette qui vient à l'extérieur et qui est très dynamique. D'ailleurs, ça, on le sent peut-être là, mais sur ces tyrans qui sont en permanence en tension. Mm-hmm. Nous, ça a été. Enfin, c'est vrai que c'est une vraie. Pour moi, la surprise, ça a été que ce bâtiment, qui a une histoire, disons très marquée par son époque, les années 70, qu'on pourrait presque, enfin, qu'on a presque à un moment donné qualifié de psychédélique, ou en tout cas, je sais pas, de. Qui pouvait rappeler toute une esthétique de ces années 70, en fait, il est très peu daté d'une certaine manière, c'est-à-dire il est effectivement contemporain de cette époque-là, mais la surprise, pour nous, ça a été le côté classique, en fait, du bâtiment, et peut-être notamment parce qu'on est dans cette vue, effectivement, qui donne ce rythme à ces poutres, etc. Et justement, la lumière du soleil qui vient taper dessus, sur cette blancheur, enfin, je sais pas. C'est un peu la surprise à vivre avec ce bâtiment en permanence sous les yeux. D'autres bâtiments de la même époque sont plus marqués par leur époque, mais comme l'été, les chemises pelle à tarte et le orange et le marron, enfin, je sais pas, comme une chose qui, où on recommence à les aimer presque plus parce que ça nous rappelle, il y a une espèce de nostalgie un peu drôle, quoi, de se rappeler de cette époque-là. Alors que ce bâtiment-là, il a vraiment une chose beaucoup plus atemporelle.
Comment on vit avec la place? Parce que c'est une sorte de chorégraphie, là, pour le coup.
Comme ça. Je prends des lunettes de théâtre. Et je règle mes jumelles.
Première loge.
Ouais. Non, mais il y a une espèce de. C'est plutôt une espèce de plaisir de contemplatif quoi, sur toutes ces choses un peu minuscules qui se passent à nos pieds. On en a un peu marre d'entendre Hotel California pour la 500 millième fois par un guitariste approximatif. Et en essayant de reconvoquer un peu mes souvenirs là tout à l'heure avant votre arrivée, je me disais, il y a des choses marrantes. Par exemple, il y a une des souffleries, des prises d'air là, sur le toit, ça s'appelle une CTA, je le sais parce que c'est la CTA 13, et qu'à un moment donné, on la faisait éteindre parce qu'elle faisait du bruit. Donc, on avait quand même le pouvoir d'appeler le soir et de dire, oui, on avait le numéro de téléphone, voilà, c'est l'emmerdeur du cinquième, est-ce qu'on pourrait éteindre la CTA 13? Donc, on entendait, ça se baissait, faire éteindre une soufflerie du deuxième plus grand musée de France, bon, c'était assez drôle.
C'est un musée, mais c'est aussi une bibliothèque. Il y a des salles de cinéma, mais on peut aussi y voir de la danse. Au rez-de-chaussée, on peut acheter des livres et sur le toit, déjeuner en terrasse. C'est un centre d'art et de culture, mais ça ressemble à une usine. C'est moderne et ça a 40 ans. C'est Beaubourg, c'est le centre Pompidou. Des 681 candidats qui répondent au concours, ce sont deux outsiders qui remportent la mise auprès du jury présidé par Jean Prouvé. Renzo Piano et Richard Rogers tombent de leur chaise et débarquent à Paris sans cravate, l'un dans un polo jaune, l'autre dans un pantalon court, ahuris de leur victoire. C'est qu'ils ont donné une réponse pour le moins insolite au programme. Une esthétique toutes entrailles à l'air, où rien n'est laissé au hasard, un grand mécano urbain pour une liberté maximale, que l'on décortique aujourd'hui avec la critique d'architecture Françoise Fromoneau. Françoise Fromoneau, on est sur la piazza de Beaubourg, face à ce bâtiment qui en fait n'est pas si facile à décrire que ça. On voit que c'est vitré, on voit des escaliers, un immense tube qui protège un escalator. Voilà, c'est un engin, une machine, un gros cube posé sur une place.
Oui, on a pu dire Beaubourg, machin, machine. Je trouve que ça le décrit assez bien, d'une manière très ramassée. Comment faire, en effet, oui, c'est un bâtiment, je crois, d'abord qu'il faut dire qu'il est à la fois très familier et toujours très radical, finalement. Familier parce que ce que vous venez de brièvement évoquer, cette grande résille blanche, très structurée, très carroyée, de tangons, de poteaux, de tirants, cette grande chenille escalator qui est devenue une sorte d'emblème de Paris. Ce caractère très populaire aussi, et non pas populiste, de cette architecture, avec cette place, ce grand parvis qui permet de voir ce déploiement de technologies, ces flux, ces gens qui gravissent la façade portée par les escalators, ce côté très pédagogique aussi du bâtiment, qui dit ce qu'il est. On en comprend la structure, on en comprend les flux, on en comprend les circulations verticales, ces grandes batteries d'ascenseurs. Tout ça fait quelque chose d'accessible, d'attirant, quelque chose qui n'est pas intimidant, qui déjoue les codes de l'architecture, disons, savante, entre guillemets, et dont témoigne bien l'affluence de cette piazza où on voit des touristes, des enfants des écoles, des supporters de foot, des joueurs de guitare, voilà, toute une sorte d'une petite cour des miracles contemporaine. Voilà. Et ce bâtiment, il surprend encore. Moi, je l'ai toujours connu, je vis depuis toujours à Paris, je l'ai vu construire, je me souviens de ce qu'il y avait avant. Et chaque fois qu'on y passe, de jour, de nuit, on est encore stupéfait de cette sorte d'audace, comme ça, de cette grande valise mobile presque, qui est posée comme ça, boum, en plein milieu du vieux Paris.
Il y a des tuyaux pour l'air, des tuyaux pour l'eau.
Les piscines, viennent.
Ça va. Ne laissez pas vos dessins s'envoler.
Est-ce que c'est facile de dessiner le centre?
En fait, je dois faire un carré plus grand. Et après, là, on fait des escalators. Et après, on fait un ascenseur. Après, on fait des arbres.
Des arbres. Et aussi, on fait des tableaux avec des trucs, des cinémas, la musique, le musée.
Et est-ce que vous le trouvez beau, le musée?
Oui.
C'est Georges Pompidou qui l'a fait.
Georges Pompidou.
Qu'est-ce que vous trouvez beau?
L'ensemble, l'escalateur. J'aimerais bien monter tout en haut.
Comme ça, je pourrais voir la Tour Eiffel.
Et moi, je pourrais voir tout Paris.
Moi, je trouve que c'est beau parce que c'est moderne.
Et à votre avis, pourquoi les architectes, ils ont mis tous les poteaux dehors?
Pour les faire voir aux gens qui aimeraient bien voir le musée Pompidou, mais ils n'ont pas l'argent pour le voir.
Pour que ce soit beau.
Pourquoi on a mis les escalators à l'extérieur, à votre avis?
Pour voir tout le centre de Paris.
Pour voir tout Paris quand on est tout en haut.
Tout en haut.
Mais alors, pourquoi on l'a pas mis dedans? Pourquoi on l'a pas mis dedans, l'escalator?
Parce que dedans, on pourrait pas le voir.
Parce que sinon...
Et sinon, les visiteurs ne pourraient pas voir et ils vont dire « Oh, mais c'est nul !»
Et l'escalator, ce serait nul qui serait à l'intérieur, parce qu'on verrait moins de choses.
Alors, les trois grandes idées, c'est d'abord la réponse au programme. C'est-à-dire, première idée, faire un bâtiment dont les grands plateaux libres soient totalement flexibles, totalement ouverts, sans poteaux intermédiaires, vitrés, dans lesquels tout puisse se passer. Et pas d'assignation particulière ni fixe aux différents éléments du programme. Donc un bâtiment versatile. Voilà. Deuxième idée, bien sûr je résume, pour tout ça il faut une structure qui puisse permettre ces grandes portées. Donc une grande carcasse métallique avec des poutres immenses, 45 mètres de long, qui dégagent entièrement ces grands plateaux libres, qui libèrent également tous les espaces intérieurs de tout ce qui les dessert, les escaliers, les arrivées, les fluides, la plomberie, l'électricité, enfin tout ce qui, toute la tripaille, dirait-on, fonctionnel d'un bâtiment qui est rejeté vers l'extérieur et qui en fait l'esthétique. Et puis troisième idée, qu'on peut peut-être attribuer plus à Piano, tant elle fait penser peut-être à, je sais pas, la place de Sienne, c'est l'idée de n'utiliser que la moitié du site pour le bâtiment proprement dit, et de l'autre, sur l'autre moitié, faire cette piazza, qui est une sorte de grand parvis en pente, qui descend à l'intérieur du bâtiment, avec ce rez-de-chaussée ou ce rez-de parvis qui en est une continuité publique, puis qui est ensuite relayé par ce grand escalator, et qui arrive jusqu'en terrasse et qui irrigue tout le bâtiment, de faire au fond de ce bâtiment un grand espace public en trois dimensions, de la rue jusqu'au toit.
On pourrait parler en fait d'une certaine franchise quand on regarde ce bâtiment. Il montre ce qu'il est, il montre comment il fonctionne. Est-ce que ça a à voir avec aussi l'esprit des années 70? Est-ce qu'il y avait chez ces deux architectes-là un attachement à une certaine forme de démocratie et de lisibilité de l'architecture?
Alors oui, sans doute. Enfin, c'est moins un bâtiment franc qu'un bâtiment qui veut exprimer une forme de vérité des choses, de vérité de la structure, de vérité des mouvements à l'intérieur. Mais comme on sait, la vérité, il faut la mettre en forme, toujours, un peu. Je crois que c'est plutôt de l'esprit des années 60 qu'il faudrait parler. Hein, les architectes, Piano et Rogers, vivent à Londres, dans le Swinging London des années 60. Ils font partie de la scène pop londonienne. Ils sont en contact avec des groupes d'architectes un peu radicaux, comme Archigram. Voilà, ces jeunes architectes qui dessinent des villes idéales, extensibles à l'infini, une architecture jetable, une architecture transformable, une architecture qui s'auto-désacraliserait grâce à la célébration de la consommation, du temps présent, de l'instant, de la technique dans tout ce qu'elle permet. Piano a souvent souligné aussi le fait que c'est un bâtiment qui est affreusement consommateur d'énergie. On est avant le premier choc pétrolier de 1973-74. C'est vraiment un bâtiment de la fin des années 60 qui, quelque part, incarne de manière assez solitaire des idéaux qui sont déjà presque en train de s'évanouir à l'époque où, en tout cas, il sera ouvert, ils le sont presque totalement.
Entrer dans Beaubourg, c'est d'abord découvrir l'ampleur de son rez-de-chaussée, cet immense plateau que le bâtiment réplique ensuite sur ses 6 étages, avec son béton au sol et au plafond ses poutres géantes, apparentes. Et puis, toujours la tête levée, ce sont tous ces tuyaux colorés qui courent partout. Vert pour l'eau, bleu pour l'air. Les gaines électriques sont-elles peintes en jaune et le rouge est gardé pour les circulations. Une esthétique de tuyauterie donc, dessinée au millimètre, faite pour être vue et où le travail de l'architecte a intégré celui de l'ingénieur. Une scénographie brute mais organisée des éléments techniques. Hier, dans ce grand hall du rez-de-chaussée, c'était le lieu des expos et des activités gratuites, une grande place que les architectes avaient même imaginée ouverte. Aujourd'hui, on trouve à droite la librairie et ses goodies, à gauche, une boutique d'objets design. Et partout, un balai de visiteurs qui sont presque ici des badauds.
Alors moi, ça fait longtemps que je le fréquente, hein, parce que mes parents, ils m'emmenaient au centre quand j'étais toute petite. D'ailleurs, il y avait à l'époque une sorte de petite bibliothèque à gauche quand on rentrait, une sorte de jardin d'enfants, ou enfin, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, je sais qu'on me déposait là pendant que mes parents allaient voir les expos. Donc ça fait un peu partie de ces lieux, vous savez, où on a tellement... c'est tellement familier qu'il n'y a pas une espèce d'impression, si ce n'est quand même de liberté, c'est-à-dire quand on entre là... cette espèce de place extérieure qui se prolonge à l'intérieur et où les gens sont très facilement assis par terre, parfois même allongés, et où ça paraît pas transgressif, où c'est presque... le bâtiment invite à ce genre de comportement. Pour moi, ça joue beaucoup dans ce plaisir d'un lieu très libre, où c'est une place publique couverte, quoi. On a moins cet effet depuis qu'il y a Vigipirate, parce qu'on met très longtemps à rentrer. Donc avant, c'était beaucoup plus libre, mais je pense que ça reviendra, je le souhaite. À mon avis, les gens viennent d'abord voir le bâtiment. Et puis, pas seulement le voir, mais le pratiquer. Franchement, cette montée dans les escalators, c'est sublime, quoi. C'est quand même vraiment sublime, ce moment où on dépasse le skyline parisien et on est dans le... Alors que moi, je l'ai fait de nombreuses fois, c'est toujours une émotion. Et c'est vrai que c'est très, très beau, quoi, ce moment où on dépasse la cime de la ville, où on peut reconnaître ce paysage familier, en même temps un peu canonique... Non, vraiment, le chef-d'œuvre, c'est le bâtiment, ça c'est sûr.
Il y a quelque chose dans cette montée, dans ces escalators qui sont accrochés de manière un peu précaire, comme ça, sur la façade, quelque chose de la magie de la tour Eiffel, de ces escaliers ou de ces ascenseurs diagonaux, qui donne presque à toucher le... la structure qu'on voit de très près, hein, ces rotules, ces contreventements, ces tiges, ces tubes, ces tangons, ils sont presque familiers, on en comprend le fonctionnement, comme sorte de bielle, comme sorte de machine, hein, ces pièces magnifiques, dessinées exactement pour remplir leur rôle. Il y a quelque chose d'un esprit de Paris qui est capté dans ce bâtiment à la fois révolutionnaire, est très insaisissablement parisien.
Et c'est en fait comme si, à notre gauche, on avait une coupe du bâtiment, hein, jusqu'à presque toucher ses éléments et son ossature, et à droite, une coupe, là, à ce niveau-là, au troisième, une coupe d'une rue de Paris. Hein, on ne voit jamais une rue de Paris comme ça, avec ces petits immeubles bien alignés les uns à côté des autres.
Alors oui, ce qu'on voit, c'est la façade restante de la rue Saint-Martin, puisqu'il faut bien dire que la façade d'en face a été démolie.
Là-bas, mon art.
Et moi, je
vais faire un micro.
C'est l'opéra Bastille.
Non, c'est l'opéra Garnier. Il y a deux opéras.
Regarde, ils nous ont suivis. On passe pas sur la vue.
Aurélien Lemonnier, vous êtes conservateur en charge des collections architecture au centre.
On s'est donné rendez-vous au cinquième étage. Alors le principe du bâtiment, c'était d'être extrêmement flexible, et il l'est. Et comment on fait de la permanence dans un bâtiment flexible? Quel a été le parti pris à cet étage?
Alors, je pense que pour répondre un peu à votre question, il faut penser plus globalement. Parce qu'effectivement, cet étage est plutôt un étage fixe. Et d'ailleurs, la rénovation qui a eu lieu il y a maintenant 15 ans, où une scénographe est intervenue, Gaolenti est intervenue, a plutôt tendance à figer les espaces, les salles, à sanctuariser un peu. Évidemment, je pense qu'on est à l'endroit où effectivement, l'architecture du bâtiment est plus figée que dans le projet initial qui avait été celui de Richard Rogers et Renzo Piano. Ça a du sens que ça soit plus figé à l'endroit finalement des trésors de l'art moderne. Enfin, je pense que ça a du sens et que c'est une évolution nécessaire probablement.
L'autre chose qui peut-être, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, donc il y a énormément de lumière puisque c'est tout vitré.
Non, il n'y a pas énormément de lumière. Enfin, moi, je ne dirais pas qu'il y a énormément de lumière. Il y a effectivement un certain nombre d'endroits où on est face à la ville et où effectivement, les salles sont ouvertes à ces terrasses et on est face à la ville. Ça, c'est vrai. Mais finalement, quand vous regardez, c'est assez limité puisque la majeure partie des espaces sont aveugles, en l'occurrence.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les architectes pensent un bâtiment où la vitre est plutôt le spectacle sur la ville?
Je pense que c'est... Enfin, je voudrais pas dire que la lumière n'est pas importante, parce qu'effectivement, elle est importante, mais c'est pas son travail muséal qui fait son originalité et qui fait sa qualité architecturale. Je pense qu'effectivement, là où il y a des fenêtres, là où il y a des grandes baies, c'est parce que ça donne une relation à la ville. Et ça donne une relation extraordinaire quand on est dans le musée, dans un lieu assez protégé finalement, qu'on est face à des œuvres d'art, des sculptures de Brancusi comme ici, mais ça peut être autre chose, et qu'on est face à Notre-Dame, à mon avis, c'est ça la qualité architecturale, véritablement.
C'est de faire résonner...
C'est d'ouvrir, c'est d'avoir une relation du musée à la ville. Et on l'a ici au cinquième, mais on l'a aussi beaucoup plus fortement dans la galerie sud, au rez-de-chaussée du bâtiment. Et l'idée, c'est quand même l'idée originelle du programme et puis de l'architecture de Renzo Piano et de Richard Rogers. C'est quand même que le musée n'est pas ce sanctuaire clos fermé à la ville, mais c'est un espace public dans lequel la ville rentre et la ville sort. Et donc il y a une fluidité. Le mot de flexibilité qu'on parlait, qui est un peu une espèce de mot assez dur, je trouve, en même temps il va aussi avec l'idée de fluidité, l'idée d'interpénétration. Le musée n'est pas un lieu d'autoritarisme, mais le musée est un lieu qui doit ou devrait être ouvert avec la ville et son activité.
Au sixième étage, ce jour-là, on déroule avec cérémonie les 38 mètres du rouleau sur lequel Jack Kerouac a écrit Sur la route. 38 mètres sur une immense table, colonne vertébrale vertigineuse de l'exposition Beat Generation, pour laquelle les scénographes ont pu faire sauter tous les murs et lever toutes les entraves.
C'est une liberté voulue par les architectes, mais c'est aussi une extraordinaire liberté et potentialité pour fabriquer des expositions. C'est-à-dire qu'effectivement, une exposition sur Paul Klee ne requiert pas du tout la même scénographie qu'une exposition sur, je sais pas, l'architecture moderne ou alors sur la Beat Generation. Donc, la grande potentialité de ces espaces, c'est qu'effectivement, ils peuvent accueillir toute forme de scénographie. Et du coup, on est dans une innovation sur la scénographie, parce qu'une scénographie, c'est pas évidemment que des murs, et c'est d'ailleurs rarement des murs finalement. C'est aussi des toiles, c'est aussi des écrans, c'est des projections, c'est des mobiliers, c'est des ambiances lumineuses, etc.
Est-ce que ça, en 77, c'est complètement nouveau comme proposition?
Ce qui se passe dans les années 70, c'est qu'en fait, c'est l'intégralité de la culture architecturale qui est contaminée par cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, la ville est une infrastructure, les infrastructures sont fixes, mais par contre, l'usage, l'aménagement, lui, est mobile, parce qu'il est soumis à l'usage, à la participation, à la vie, à l'événementiel, etc. Ce qui est très fort avec Richard Rogers et Renzo Piano, c'est qu'effectivement, ils érigent ce modèle-là à une échelle hors du commun pour une institution muséale. Ça, c'est vrai que c'est très nouveau. Moi, je suis quand même extraordinairement fasciné par la capacité que les représentants de l'État ont à accepter, précisément, et à encourager cette vision totalement anticonformiste. Je pense que même aujourd'hui, on aurait du mal à donner un exemple d'une capacité à inventer un nouveau modèle à ce point-là. Je pense que beaucoup de gens encore trouvent que c'est extrêmement curieux d'avoir cette usine à côté de Notre-Dame. Et de fait, c'est extrêmement curieux d'avoir une usine à côté de Notre-Dame.
Françoise Fomono, on a pris un peu de recul et vous nous avez emmené dans une petite rue derrière le centre Pompidou. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on voit ?
Eh bien, on voit une façade qu'on décrit beaucoup moins souvent que l'autre. L'autre, la façade sur la place avec sa chenille. Là, on est à l'arrière, mais qui n'est pas vraiment un arrière, qui est un autre devant du bâtiment. Celui sur lequel sont regroupées toutes les tuyauteries. Qui ont fait surnommer Beaubourg raffinerie, usine, et qu'on voit cadré comme ça dans ce dédale de petites rues qui sont à l'orée du marais. Le contraste est assez beau, assez saisissant. Et on a parlé parfois pour défendre cet aspect coloré, tubulaire, cet expressionnisme du bâtiment, de bâtiments gothiques qui rejoueraient dans la modernité quelque chose du grand style français qui était celui de l'époque où les cathédrales étaient peintes. C'est Robert Bordaz, la cheville ouvrière au niveau de l'État, nommé par Pompidou du projet, qui avait trouvé ça au débotté dans une conférence de presse. Il avait dit, écoutez, on n'est pas loin de Notre-Dame, on est encore plus près de l'église Saint-Merry. Le gothique, l'expressionnisme de la structure, tout ça, ce sont des grandes passions françaises. Et Beaubourg les rejoue, donc arrêtez avec vos critiques, je trouve ça... très drôle, et Piano et Rogers en riaient beaucoup.
Le génie des lieux, épisode 2, le centre Pompidou, machin machine. Avec Françoise Fromono, Aurélien Lemonnier, Julie Desprairies et Madame Rodriguez. Prise de son Thomas Robin, mixage Pierre Monteil, réalisation Lionel Quentin. Une émission de Camille Jusa. Réécoute podcast sans limite de durée à la page du Génie des lieux sur le site de France Culture, page sur laquelle vous trouverez aussi quelques photos de Julien Donada. La semaine prochaine, une dalle, des tours, un quartier chinois, épisode 3, les Olympiades.